Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Je suis dans les locaux de la Basoche, un lieu assez particulier, original et par certains côtés avant-gardiste à Tours, en Indre-et-Loire. C'est une pension de famille et je vais rencontrer et discuter avec quelques-unes des personnes qui font vivre ce lieu et qui vivent dans ce lieu. Pour commencer, je vais poser quelques questions à Delphine Picard. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et si tu veux bien, je vais te laisser te présenter.
Donc je suis Delphine Picard, je suis la directrice du secteur pension de famille de Solia Centre-Val de Loire, donc qui est une association régionale spécialisée dans le logement et l'accompagnement dans et vers le logement. Donc nous gérons 4 pensions de famille, donc 2 sur la ville de Tours, 1 sur Fondette dans l'agglomération de Tours et 1 à Châteauroux. Et on accompagne également le développement de nouvelles pensions de famille sur la région et sur le territoire national.
D'accord. Alors pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, pour nos amis aussi à l'étranger, puisque le podcast est pas mal écouté à l'étranger, donc quelquefois il faut resituer un petit peu le contexte. Voilà. Donc nous sommes à Tours, c'est le centre de la France.
C'est ça.
Pas le centre du monde, on
non,
pourrait
au
croire,
moins de la France. Ouais.
Au moins de la France. Et donc, comme on va parler de pension de famille, même si on ne va pas rester sur l'appellation, on va plus parler des choses concrètes après. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est une pension de famille ?
Alors, je vais essayer de le faire très rapidement, parce qu'il ne va pas être simple. La pension de famille, c'est un dispositif qui est relativement récent, qui date de fin 2002. L'idée étant de proposer un lieu de vie pérenne pour des gens initialement qui avaient des parcours de rue, mais aussi des gens qui étaient en difficulté de par des problématiques psychiques, psychiatriques, des problématiques financières, des problématiques d'addiction, enfin voilà, tout plein de problématiques différentes qui ont besoin d'un lieu où à la fois ils peuvent être autonomes dans un logement, mais avec une vie semi-collective qui est porteuse et créatrice de liens sociaux. Et on peut résumer la pension de famille en vivre chez soi, mais pas tout seul.
D'accord. Quelques mots peut-être sur Solia. Tu as dit le nom en te présentant. C'est un peu particulier. Hein. Je crois qu'il y a un axe un peu militant, ouais. Engagé.
Alors Solia, ce qui veut dire solidaire pour l'habitat, c'est le nom depuis 2015 de l'association Pacte qui a été créée à la sortie de la guerre pour réhabiliter des logements de personnes et notamment des personnes âgées qui se retrouvaient sans domicile suite aux bombardements et aux conflits. Et initialement, Pacte voulait dire propagande d'action contre le taudis. Donc effectivement, on est sur une association historiquement militante et depuis 2015, donc, le Pacte a fusionné avec Habitat et Développement et donc pour former Solia qui est aujourd'hui le premier acteur à associatif du logement.
En France ?
En France, oui. Donc Solia est présent dans tous les départements français de métropole et d'outre-mer. Et aujourd'hui, les grands piliers de travail de Solia, donc on est sur l'amélioration de l'habitat, autant auprès des particuliers que des collectivités, la lutte contre l'habitat indigne, la sortie d'insalubrité et l'accompagnement dans et par le logement de personnes en difficulté.
C'est privé, c'est associatif ?
Alors c'est une association régie par la loi 1901. La particularité de Solia Centre-Val de Loire, c'est que nous on est implanté au niveau régional et pas au niveau départemental. Et donc on est présent sur l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher et le Loiret.
Et quel est le lien, puisque ce podcast donc est lié au podcast précédent, à l'interview de Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, et je sais qu'il y a beaucoup de liens, donc est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre lien ?
Oui, alors on a des liens sur beaucoup d'actions avec la Fondation Abbé Pierre. Donc effectivement, la Fondation Abbé Pierre soutient financièrement les sorties d'insalubrité, les chantiers, les projets qu'on peut mener pour loger des personnes défavorisées. Et en ce qui concerne particulièrement le secteur des pensions de famille. La Fondation œuvre depuis l'expérimentation justement du dispositif pension de famille pour le promouvoir, pour le faire vivre. Et aujourd'hui, donc, on fait partie du réseau Fondation Abbé Pierre, pension de famille, boutique solidarité, qui sont des accueils de jour de la Fondation Abbé Pierre. Et la Fondation nous soutient à la fois sur la création des pensions en finançant le coût des travaux, et également sur le fonctionnement, soit nous soutenant financièrement pour du développement, pour de la mise en œuvre de projets, etc. Mais soutient également les équipes professionnelles en instaurant des temps d'analyse de la pratique pour les professionnels. Et la Fondation agit également comme tête de réseau pour nous accompagner dans des réflexions plus larges sur nos pratiques, sur ce que sont les pensions de famille, ce qu'elles doivent être, devraient être. Et la Fondation anime également des temps forts, qui sont des temps de rassemblement, soit autour du sport, soit autour de la culture, soit autour aujourd'hui de l'alimentation. Donc des grands temps forts, des grandes manifestations qui rassemblent les pensions de famille et les boutiques solidarité du réseau national de la Fondation Abbé Pierre.
Quand tu dis 2002, début des pensions de famille, mais avant il y avait des choses similaires qui portaient un autre nom ou il n'y avait rien de similaire?
Alors il devait exister des choses de manière très ponctuelle et en tout cas peu diffusée. Donc avant la circulaire du 10 décembre 2002 donc, qui a donné le cadre légal aux pensions de famille, Xavier Emmanuelli avait créé donc, en 1995 le SAMU social et a lancé en 1997 une expérimentation pour développer des lieux de vie pérennes, de manière à mettre à l'abri, dans un temps long, des gens qui étaient à la rue. Effectivement, le SAMU social permettait de sortir des gens de la rue pour une nuit, deux nuits, trois nuits, mais il manquait des lieux où les gens pouvaient vraiment se poser et s'installer. Et donc voilà, il y a eu une grande phase d'expérimentation pendant 5 ans sur le territoire, qui a donné lieu donc, à la création des pensions de famille. Donc on appelait Maison Relais quand le texte de loi est sorti, et très vite le terme pension de famille a été mis en avant parce que le mot relais sous-entend quelque chose de limité dans le temps, donc ce qui est complètement contraire au texte fondateur, et que la pension de famille se rapporte quand même beaucoup plus à ce qui se vit dans ces lieux où finalement on est sur des lieux à taille humaine et des lieux où on reproduit une vie familiale, une vie en tout cas conviviale et à échelle humaine.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast sur la Fondation Abbé Pierre et avec cette illustration par la basoche que je connaissais déjà pour montrer une application concrète sur le terrain, parce qu'en fait, il y a un très gros travail de réflexion qui est fait pour les gens, pour tous les gens qui sont concernés par cette problématique du mal-logement, du logement indigne, du pas de logement du tout. Et donc, je peux raconter comment on s'est rencontrés?
Oui, bien sûr.
Voilà. Et en fait, en 2016, fin 2016, à Tours, j'ai suivi donc pendant 4 mois pour un documentaire sur la fermeture d'un foyer d'urgence qui avait été décrété de façon très violente, hein, 24 décembre pour une exécution le 26 décembre.
Donc et par SMS.
Voilà, avec 36 personnes hébergées qui devaient donc se retrouver dehors. Il faisait moins 4 degrés. Et il y avait un comité de soutien qui était là tous les soirs et dans lequel tu t'étais pas mal investi. Et moi, je suivais tous les soirs les assemblées générales de ce comité de soutien. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de venir filmer à la basoche, puisque pour répondre au désir du comité de soutien d'informer la population de Tours, les citoyens, donc il y avait eu la réalisation d'un couscous géant et donc les cuisines de la basoche avaient été ouvertes à ce comité de soutien pour pouvoir faire tout ça. Ce qui m'a donné l'occasion de venir dans ce lieu que j'ai trouvé incroyable, déjà incroyable parce que c'est un très beau lieu, c'est vraiment un lieu, c'est magnifique quoi. Autant là je me retourne, je vois les jardinières en bois, les petits bancs en bois, ce jardin, cet énorme figuier, en plus il fait beau là aujourd'hui. Il
y a on est en plein centre-ville,
c'est calme, le bâtiment est moderne mais en très belle pierre, c'est super sain, c'est coloré, et j'ai été très touchée par l'ambiance ici et par ces gens qui avaient eu des parcours un peu, ce qu'on peut dire, fracassés par la vie, hein, qui ont eu des parcours très difficiles. Et il y avait une ambiance très paisible. Il y avait vraiment, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on ne peut pas arriver à ça sans un travail de fond derrière, en amont. Et je me suis demandé comment vous en étiez arrivé là. Donc j'ai discuté avec toi, j'ai discuté avec des gens qui étaient là, j'avais filmé aussi un peu. Et je me suis dit, donc c'est possible, ça fonctionne bien, c'est pas un lieu, contrairement au foyer d'urgence dans lequel on était, qui a une autre fonction. Ici, effectivement, je voyais que des gens avaient pu se reconstruire. Ça se sent, hein. On voyait la façon dont ils se comportaient. Donc je me suis demandé quand même, puisque ce lieu qui a un fonctionnement particulier et une mission particulière, et que visiblement on peut dire que ça fonctionne bien, pourquoi il n'y en a pas plus en France, des lieux comme ça ?
Alors,
Parce que de la population, pour remplir des lieux comme ça, il y en a beaucoup plus qu'il y a de place.
Juste petite parenthèse, juste au niveau de l'Indre-et-Loire, on a une liste d'attente auprès du SIAO, qui est le service intégré d'accueil et d'orientation, mm-hmm. donc qui centralise les demandes de logements accompagnés, adaptés, d'urgence dans chaque département. Oui. Le SIAO de l'Indre-et-Loire aujourd'hui a environ 50 demandes en attente, donc qui sont éligibles à une entrée en pension de famille, mais effectivement il y a 50 personnes qui attendent leur place, et donc ce qui justifie bien effectivement qu'il y ait de la demande. À titre indicatif, aujourd'hui en France il y a environ 17 000 places de pension de famille qui sont ouvertes. Le plan de relance prévoit d'en ouvrir donc 25 000 en tout d'ici fin 2022, donc c'est bien la preuve que ça répond à une demande. Après, voilà, toutes les pensions de famille ne fonctionnent pas de la même manière. Donc après, dans ta question, il y a déjà plusieurs aspects de réponse. Il y a un premier aspect qui est la notion de temps. À la différence d'un foyer d'urgence où les gens n'ont pas vocation à rester, les gens sont là le temps de se reconstruire et de repartir sur autre chose.
Et en plus, doivent souvent quitter, ou toujours, je ne sais pas, le lieu le matin,
la journée, rentrent que le soir. En pension de famille, les gens sont vraiment chez eux. On est vraiment sur une notion d'habitat. On n'est pas du tout dans une notion de foyer. Donc les gens sont chez eux. On s'inscrit dans le droit commun du logement classique, le tien, le mien. On peut fumer dans son appartement, on peut boire de l'alcool, on peut recevoir du monde.
On peut avoir un animal.
On peut avoir un animal, voilà.
Alors, on a vu ce petit chat là.
C'est ça, Caramel, Princesse. Enfin voilà, il y a plein de chats qui profitent du jardin. On a des chiens aussi. Alors ça peut paraître anecdotique de dire, de rappeler ces droits-là, mais effectivement, dans pas mal de pensions de famille, ça n'existe pas. L'alcool est interdit. On ne peut pas avoir des animaux parce que ça dégrade, etc. Donc voilà. En tout cas, le cadre de la pension de famille permet ça, à la différence d'un foyer qui a un réglementaire plutôt contraint. En pension de famille, les gens sont chez eux. La deuxième notion, c'est que les gens sont chez eux le temps qu'ils souhaitent. Donc il n'y a pas de date de fin. Quand on rentre en pension, on ne signe pas un contrat qui dit dans un an, il faut être parti. Les gens restent s'ils le souhaitent, partent s'ils le souhaitent. Et mine de rien, ça, dans l'accompagnement et dans la façon d'investir les lieux, ça change tout, et c'est un vrai luxe d'avoir ce temps. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois quand quelqu'un arrive en pension de famille, on lui dit, mais vas-y, installe-toi, t'as le temps. Et si l'installation, elle prend 6 mois, si elle prend 1 an, c'est pas grave. Enfin voilà, le travail, le reste, on le travaillera quand tu seras prêt. En tout cas, là, ce qui compte, c'est que tu te poses et tu as le temps de te poser et tu choisiras si tu as envie de partir ou si tu n'as pas envie de partir. Et finalement, les gens partent peu. On fait 1 à 2 sorties maximum par an. Et en général, les sorties, ce sont des décès, malheureusement. Mais j'ai envie de dire heureusement aussi, puisque les gens choisissent de finir leur vie dans cet environnement-là. Donc c'est bien un choix, c'est bien qu'ils s'y sentent bien et qu'ils ont envie d'y rester jusqu'à la fin de leur jour. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, qui change. Et la deuxième chose, c'est cette notion de choix, finalement, qui est assez primordiale et qu'on souhaite mettre en avant dans notre façon, en tout cas, de travailler en pension de famille. Et je refais le lien avec Albert Thomas, où on s'est rencontrés. Effectivement, Albert Thomas est un voisin de la pension de famille, la Basoche. Donc moi, je m'y suis impliquée, mais à titre personnel, pas du tout à titre professionnel. Oui. Il se trouve qu'on échange avec les habitants, donc je leur raconte ce qui se passe. Et en leur racontant, ils sont interpellés, ils sont touchés par cette histoire. Demandent à venir avec moi, donc alors pas tous, certains habitants me demandent à accompagner. Finissent par aller tout seuls au foyer régulièrement. D'autres s'investissent dans les manifestations, enfin voilà, soutiennent le foyer. On a des habitants qui ont vécu au foyer, donc qui sont d'autant plus touchés par cette situation-là.
Propre.
Et quand on cherche un lieu donc, pour faire de la cuisine pour ce fameux couscous solidaire, ce sont les habitants eux-mêmes qui proposent d'ouvrir leur cuisine. Donc ils ont le choix, il n'y a pas de on a les cuisines, on vous impose de les faire. Donc voilà, ils sont vraiment chez eux. Et les habitants ont le choix dans leur... dans la vie de la maison, on a des conseils des habitants une fois par semaine où les gens choisissent quel jour ils vont s'investir sur l'entretien des espaces collectifs, parce qu'il y a aussi cette vie collective qui impose des contraintes. Donc qui va faire à manger, puisqu'on partage des repas tous les jours ensemble. On ne fait pas venir de boîtes de livraison, on confectionne vraiment les repas comme dans une maison familiale, en fait. Sauf qu'on mange à 20 au lieu de manger à 4-5 comme en famille. Donc ils choisissent quel jour ils veulent s'impliquer, ce qu'ils veulent faire. Ils donnent leurs envies de projets, d'activités. Donc ils font vivre la vie de la maison. Et donc ils ont le choix de venir au repas, ils ont le choix de participer aux activités. Ils ont le choix de venir parler aux travailleurs sociaux, qui ne sont pas tous des travailleurs sociaux, mais aux autres de la pension de famille. L'accompagnement social n'est pas la contrepartie du logement chez nous. Donc ils ont le choix de venir partager leurs difficultés, comme ils ont le choix de ne pas venir les déposer ici et d'aller les déposer à l'extérieur. Et mine de rien, cette notion de choix, elle est vraiment primordiale et elle modifie énormément notre façon d'accompagner aussi enfin de faire de l'accompagnement social au quotidien, parce qu'on prend vraiment en compte et en considération, parce que prendre en compte, c'est assez facile, mais prendre en considération, c'est aussi une autre façon de percevoir l'autre, et que dans cette pension, on est sur des rapports d'égalité, en fait, qu'on soit travailleur social, qu'on soit directrice, qu'on soit habitant, qu'on soit bénévole, qu'on soit stagiaire, enfin, la parole de tout le monde est prise en considération, et y a une notion d'égalité dans nos rapports qui, à mon sens, en tout cas, modifie pas mal ce qui se passe et la vie dans la pension.
Et ça, c'est très concret. C'est pas juste des mots, parce que j'ai pu l'observer. Et toi, tu es à la tête donc, de ce réseau de pensions de famille sur la région. Ça couvre... Il y a combien de personnes, en fait, qui sont incluses dans ce réseau?
Alors, sur nos quatre pensions, aujourd'hui, ça représente 79 logements, pour être très exact. Donc, 79 habitants, puisque dans nos projets, on n'accueille pas de couple. Nous, on accueille des personnes seules, isolées. Ce qui n'empêche pas que les personnes se mettent en couple, hein, mais en tout cas, chaque personne a son logement. Et c'est une équipe de 10 personnes qui est chargée en tout cas de faire vivre ces 4 pensions de famille.
Quelques mots du fonctionnement financier peut-être ?
Alors, le fonctionnement financier, donc, on peut décliner en 3 parties finalement le fonctionnement financier des pensions de famille. Donc une première partie qui est dédiée à l'accompagnement social. Donc on a une subvention de 16 euros par jour et par place qui est versée par la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, qui est le représentant de l'État en fait dans chaque département. Donc on est bien sur un dispositif financé par l'État. Donc ces 16 euros par jour et par personne nous permettent de financer l'équipe salariée sur place. Ce qui n'est pas énorme, donc ce qui fait qu'effectivement on a des petites équipes salariées. Donc on tourne à un binôme par structure, sachant que c'est un choix de notre part aussi que les personnes ne soient pas seules sur une structure, parce que Delphine en parlera tout à l'heure mieux que moi, mais on est sur des métiers qui sont chargés émotionnellement, en termes de demandes, etc. Et que tout seul c'est juste impossible. Ensuite, sur le budget, on a une deuxième partie qui est liée à ce qu'on va appeler le bâtiment, en fait, le fonctionnement du bâti. Donc tout ce qui est le loyer que nous on verse aux propriétaires, ou les crédits qu'on va rembourser si on est nous-mêmes propriétaires, qui permet le paiement de l'électricité, de l'eau, enfin voilà, toutes les charges liées au bâti. Et ces charges-là donc, sont couvertes par la redevance mensuelle qui est facturée aux habitants. Donc à titre indicatif, on est à 450 euros par mois pour un T1 prime, donc un grand studio, on va dire. Et ces 450 euros par mois couvrent tout, donc le loyer, l'eau, l'électricité, la taxe d'ordures ménagères, etc. Et les habitants sont rendus solvables par le biais d'une aide pour le logement qui est versée par la CAF. Donc cette partie-là nous permet, nous, de faire fonctionner le bâti. Et après, on a une troisième partie du budget, ce qu'on va appeler les prestations annexes, qui est un supplément mensuel qu'on facture aux habitants et qui permet de mettre en place donc, des activités mensuelles, de prendre en charge les repas qu'on partage chaque jour et qui est chez nous entre 25 et 70 euros en fonction du fonctionnement des pensions de famille.
Et la subvention, elle évolue tous les ans ?
Non. Donc c'est bien, c'est un petit point important ça. Et j'en profite si le podcast est écouté là où il faut. La subvention, en fait, en 2002, donc quand le dispositif a commencé, elle était de 8 euros par jour et par place. Elle est passée à 12 euros en 2015. 2005, pardon, autant pour moi. Et en 2008, donc à 16 euros. Et depuis 2008, la subvention n'a pas évolué. Alors que le coût de la vie a évolué, que le coût des salariés. Enfin, si on veut avoir des salariés compétents et efficaces, ça demande aussi de pouvoir les valoriser financièrement. Et en tout cas, de valoriser leur ancienneté dans le poste. Et avec une subvention qui évolue pas, c'est un peu compliqué aussi. Voilà. Donc la dernière loi de finances, il y avait une proposition d'augmenter cette subvention, ça n'a pas été suivi, donc on verra sur les prochaines lois de finances.
Alors dans ce réseau, il est question de pension de famille, mais on parle aussi plus largement des questions de logement indigne, de précarité énergétique, de soutien aux aidants. C'est très vaste en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes branches de l'arbre ?
Voilà. Donc Solia Centre-Val de Loire, effectivement, est une association avec... On a tendance à l'appeler la galaxie. Avec plusieurs planètes. Donc il y a cette planète pension de famille. On a au sein de Solia Centre-Val de Loire donc, un établissement qui s'appelle Zigan Habitat, donc, qui est spécialisé dans les questions de logement et d'accueil des gens du voyage, à la fois de la gestion d'aires d'accueil classiques, mais aussi de la réflexion et de la création de logements adaptés pour les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. Le Zigan Habitat accompagne aussi des collectivités qui sont dans ces logiques de réflexion-là, gère les grands passages par exemple pendant l'été. Donc voilà, on est vraiment sur la question question de logement, mais auprès du public des voyageurs. On a une autre structure associée, donc, qui est AGV. Donc AGV est aussi sur la question de logement, mais plus à destination des personnes âgées. Donc avec pas mal de dispositifs également qui vont de l'accueil de jour. Donc on a des animatrices qui vont chercher les personnes âgées à leur domicile, qui les amènent sur un lieu bien souvent qui est prêté par une municipalité, avec des animatrices qui animent la journée, préparent un repas, les personnes âgées partagent leur repas ensemble. Les animatrices ramènent ensuite les personnes âgées à leur domicile. Et donc ces accueils de jour permettent de rompre l'isolement et de maintenir les personnes âgées à leur domicile quand c'est leur choix. AGV gère aussi donc ce qu'on appelle des relais sépia, qui sont des sortes de maisons de retraite, mais avec une logique de retour à domicile à un moment donné. Donc qui sont destinées soit à des personnes âgées qui ont fait une chute à leur domicile, qui ne peuvent pas retourner tout de suite chez elles et qui ont besoin d'être en meilleure forme avant, ou pour des personnes âgées qui sont accompagnées par leur famille au quotidien, et les familles ont besoin par moment aussi de pouvoir souffler, tout en s'assurant que leur papa, leur maman soient pris en charge correctement. Et puis AGV développe aussi des dispositifs un peu innovants de prise en charge des personnes âgées. Il y a un projet qui est en train de se monter sur Fondette là en ce moment, avec un lieu
qui est une ville proche de Tours,
une ville de l'agglomération qui est un projet qui va mêler à la fois de la maison de retraite, de l'EHPAD, donc pour les personnes âgées dépendantes, une maison pour les personnes qui ont Alzheimer, un dispositif pour des personnes qui à la fois n'ont pas l'âge ou ne souhaitent pas aller en maison de retraite mais qui en même temps ont besoin de soutien. Donc voilà un dispositif plutôt pas mal. On a d'autres branches après, donc tous les SOLIA sont, donc on a des établissements territoriaux SOLIA qui eux sont vraiment sur la notion de bâti et de construction auprès de particuliers et de collectivités et d'accompagnement à la rénovation pour lutter contre la précarité énergétique, pour sortir de l'habitat indigne. Et on a une autre structure associée qui est également la FICOSIL, donc la filiale immobilière commune aux organismes sociaux d'Indre-et-Loire, qui est un dispositif assez unique en France, puisqu'il associe à la fois des bailleurs sociaux, des associations de solidarité et des associations sociales, et des structures financières, donc la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne notamment, et que tous ces acteurs donc, se sont associés au sein de la FICOSIL, dont Solia est associé majoritaire à 85% environ. Et donc la FICOSIL est un outil du département pour répondre à la question des personnes, du logement des personnes défavorisées. Donc effectivement, on a un panel très large de réponses au logement et au mal-logement et à l'accompagnement dans le logement. Et donc il y a des passerelles aussi qui sont entre ces dispositifs quand il y a besoin.
Toi, est-ce que tu es arrivé là un peu par hasard ou est-ce que tu as choisi ce domaine professionnel précis dans lequel tu es tellement impliqué maintenant?
Alors, je vais dire que j'ai choisi puisque je défends le choix et le droit de choisir. Donc je vais dire que j'ai choisi. Alors j'ai choisi le domaine du social pour travailler. Ça, c'était effectivement un vrai choix qui n'était pas mon choix initial puisque je me destinais plutôt à des études dans le scientifique, à des métiers dans le scientifique, jusqu'à ce que le social me paraisse une évidence au regard d'activités bénévoles que je pouvais avoir, d'où une reconversion professionnelle. Donc c'est un vrai choix de travailler dans le domaine social. Pour autant, le domaine du logement est ma première expérience, la BASOCH est ma première expérience dans le domaine du logement comme ça. Oui. Et donc aujourd'hui, ça fait 12 ans et ça me paraît juste une évidence. Et pour moi, c'est... Le logement est juste l'outil indispensable pour pouvoir travailler avec les gens. Et je refais le lien avec la politique actuelle du gouvernement, qui est la politique du logement d'abord, où il faut qu'on arrête de réfléchir en se disant que le logement va être le Saint Graal, une fois qu'on aura franchi toutes les étapes, qu'on aura prouvé qu'on peut être bien dans un foyer, puis dans un centre d'hébergement, puis ceci, puis cela. C'est plutôt réfléchir à l'inverse en se disant que le logement est le préalable pour pouvoir travailler sur le soin, pour pouvoir travailler sur la relation sociale, pour pouvoir travailler sur l'insertion professionnelle, etc. Et donc c'est notre façon aussi de penser en disant le logement est un outil finalement comme le travailleur social, mais un outil indispensable pour que les gens puissent se construire ou se reconstruire.
Alors, la BASOCH, c'est un lieu un peu à part, hein, quand même, dans tout cet univers. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en parler. Votre fonctionnement sort un peu des cadres traditionnels. Il est motivé depuis le début par le désir d'impulser l'émancipation de ses habitants. Et pour cela, vous faites un travail de fond, donc un travail assez audacieux, parfois, qui n'est pas dans l'exécution de règles préétabli, mais c'est quelque chose de très vivant, avec de l'observation, du questionnement, de la remise en question, de la participation des habitants eux-mêmes et pas mal d'initiatives et de créativité. On va en reparler aussi. Et c'est ce qui fait votre identité particulière. J'aimerais bien qu'on en parle un peu maintenant, si tu veux bien. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de comment vous concevez ici l'émancipation qui te tient particulièrement à cœur, je crois?
Oui, alors, derrière émancipation, je mets aussi plein d'autres termes. Alors, on parle beaucoup d'empowerment aujourd'hui, c'est le mot un peu à la mode. Moi, je préfère parler
pour tout aussi.
C'est ça. Moi, je préfère parler de capacité parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il sonne bien aux oreilles dans l'idée que les gens sont capables et que c'est comment on les accompagne à prendre conscience qu'ils sont capables et à prendre conscience pour eux, mais aussi à donner conscience aux autres. Et on parle aussi beaucoup de pouvoir d'agir. Voilà. Enfin, c'est plus que tout ça. C'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de choisir. Et pour en arriver à ça, effectivement, il faut qu'on travaille la confiance individuelle des personnes et il faut aussi qu'on travaille la posture des gens qui sont en face et qu'on ne soit pas que dans une posture qui dit la loi dans le travail social impose qu'on mette en place la participation des personnes. Il faut en être convaincu. Dans notre équipe, on est convaincu de ça et effectivement, les habitants donc, nous accompagnent dans énormément de prises de décision. Donc, je parlais déjà du Conseil des habitants qui est quand même l'instance décisionnelle de la vie des pensions et tous les habitants sont là chaque semaine. Alors, en fonction des lieux, soit c'est un autre qui l'anime, soit c'est un habitant qui l'anime, soit c'est deux habitants qui prennent des notes. Et là, ça se décide entre habitants au sein des pensions. Donc, il n'y a pas de modèle non plus copier-coller en fonction des pensions. Et après, c'est effectivement qu'on monte des projets. Les habitants sont avec nous, on les investit dans les projets. Mais investir, ce n'est pas juste leur en parler. C'est aussi demander leur avis et écouter leur avis. Tu parlais d'une place à table tout à l'heure. Une place à table qui est un festival qu'on a développé avec la Fondation Abbé Pierre pour la première fois en 2016, donc le comité de pilotage qui s'appelait le Croque-Pile, pour ce festival qui dénonçait la précarité alimentaire et souhaitait lutter contre le gaspillage alimentaire et souhaitait aussi valoriser une alimentation de bonne qualité pour tous. Dans ce comité de pilotage, on a des habitants qui étaient avec nous et qui nous ont accompagnés tout au long des réunions. Là, 90% des réunions dans lesquelles on va, les habitants nous accompagnent. Je prends notamment l'exemple, on a des projets de construction de pensions, là, donc 4 en cours, où on impose aux maîtres d'œuvre, aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires, que les habitants soient avec nous dans les réunions dès le début, en tant que maîtres d'usage. Puisque ils ont la connaissance de la vie au sein de la pension et qu'à ce titre-là, ils ont une vraie expertise de comment c'est de vivre dans une pension de famille et qu'on ne peut pas se passer de cette expertise-là. Donc elle n'est pas plus importante que l'expertise financière d'un propriétaire qui va travailler le budget. Elle n'est pas plus importante que l'expertise d'un architecte qui va nous monter techniquement le bâtiment. Elle est vraiment au même niveau et aujourd'hui, les architectes sont de plus en plus convaincus de notre pratique et apprécient. Et même nous, voilà, moi, ça fait 12 ans que je connais les pensions. J'ai le sentiment de bien les connaître. Encore aujourd'hui, je suis bluffée de changements de plan que nous demandent les habitants parce que, je prends l'exemple très bête, hein, jusqu'à présent, on construisait les buanderies collectives au rez-de-chaussée à l'entrée des espaces communs. Et les habitants m'ont dit, mais pas du tout, on en a marre en fait de descendre avec notre linge sale, on en a marre de redescendre avec notre linge propre. C'est pas super intime. Nous, on aimerait que les buanderies soient aux étages. Donc aujourd'hui, on monte tous nos projets avec des buanderies dans l'étage. Si on n'avait pas eu le regard d'expert des habitants, jamais on aurait pensé à ça. Oui. Et là, c'est un exemple comme un autre. Hein. Je pense à l'implantation des cuisines où ils nous demandent systématiquement maintenant des cuisines ouvertes. Et encore une fois, ce que demandent les habitants aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas ce que demanderont les habitants demain. Mais pour autant, voilà, ils sont à nos côtés, ils travaillent avec nous les projets. Il y a eu avec la Fondation Abbé Pierre, on a eu l'occasion de passer une demi-journée au Sénat et de rencontrer des sénateurs avec qui on a pu échanger toute une matinée sur les questions de logement, d'hébergement, de mal-logement. Et donc ça a demandé 6 mois de travail aussi d'éducation civique, juste déjà, qu'est-ce que c'est que le Sénat, à quoi ça sert, comment ça marche. Il y a eu des exercices de prise de parole en public, parce que c'est pas si simple hein, de prendre un micro et d'aller parler à des élus de la République. Donc voilà, les habitants ont pu aussi échanger avec eux. À la Basoche, on a eu l'occasion, lors des dernières élections municipales, donc pas celle de cette année, mais les précédentes, d'inviter à la pension de famille tous les candidats à la mairie de Tours, parce que les habitants voyaient les campagnes et la mobilisation qu'on avait à leur dire « inscrivez-vous sur les listes électorales », etc. Ils nous ont dit « vous êtes bien gentils, mais après on n'y connaît rien, on est inscrit et qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc on a souhaité, encore une fois, leur donner la capacité de choisir eux-mêmes en ayant toutes les informations. Donc on a invité les candidats à venir partager un café, un temps d'échange.
Les candidats à la mairie de Tours.
À la mairie de Tours, donc avec un gros débat sur est-ce qu'on accueille dans la pension de famille le candidat du Front National, puisque c'était encore le Front National à l'époque. Donc un débat qui a été assez vif entre « si c'est la démocratie, on accueille tout le monde, oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment démocratiques, etc. » Il y a eu un consensus collectif qui a été de dire, bah non, nous ne les invitons pas. Donc tous les candidats, sauf le Front National, sont venus à la pension, ont été invités. Ils ont été trois ou quatre à accepter de venir, donc chacun à tour de rôle, avec tout un temps de préparation sur quelles questions on leur pose, qu'est-ce qu'on veut aller creuser, et avec un souci de dire, on pose les mêmes questions à tout le monde aussi. Donc tout un temps de préparation. Voilà, après on a plein d'exemples. Il y a dans chaque département le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Donc qui est un outil qui date de 90, qui est un outil obligatoire dans chaque département, piloté par l'État et les conseils départementaux. Et aujourd'hui je copilote une fiche action de ce plan en Indre-et-Loire avec un habitant de la Basoche, et donc qui est la fiche action implication des usagers. Encore une fois, on ne peut pas parler de l'implication des gens avec des professionnels ou avec des administratifs. Les personnes les plus à même d'en parler sont les personnes concernées. D'où ce copilotage qui n'était pas si évident pour tout le monde au départ et qu'il devient aujourd'hui.
Pas évident à accepter parmi les autres protagonistes.
Oui, c'est ça, parce que les professionnels sont pas du travail social, ne sont pas habitués forcément à ces pratiques-là. Les administratifs ne le sont pas non plus, puisqu'ils sont plutôt à traiter des dossiers, des demandes de subventions, etc. Mais ils sont peu en lien finalement avec les gens à qui sont destinées toutes les aides. Et il y avait une espèce de crainte de leur part en disant oui, mais ils ne vont pas comprendre, ils ne sont pas au courant de quoi on parle. Oui, mais ils ont des problèmes, donc ça va être compliqué de discuter avec eux, etc., etc. Enfin voilà, toutes les représentations qu'on peut avoir, et moi aussi, j'en ai aussi sur certaines personnes. Mais voilà, il y avait toutes ces représentations d'un regard très hygiéniste, paternaliste, moralisateur, sur oh, les pauvres petits, ils ne savent pas, donc on va leur épargner ça. Et finalement, petit à petit, parce que les interventions des habitants sont sensées, sont intéressantes, sont complètement adaptées.
Sont utiles.
Sont utiles, ouais, surtout. Et finalement, les travailleurs sociaux, les bailleurs, les administratifs, etc., se disent, ah, mais en fait, c'est super, parce que le regard qui nous apporte, c'est un regard qu'on n'a jamais eu. Et on sort de l'entre-soi, nous aussi, de tête pensante, en fait, soi-disant pensante. Et que du coup, on n'avait jamais vu ces sujets-là et ces problématiques-là sous cet angle. Et ça change vraiment, vraiment tout. Et ce que je disais tout à l'heure, on sort de l'obligation légale, puisque la loi 2002 du travail social, de la rénovation de l'action sociale, dit la personne accompagnée est au centre du dispositif et doit participer. Mais il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi le mettre en pratique, et c'est pas toujours simple, parce qu'il y a un travailleur social qui vont m'entendre, vont me haïr à dire ça, mais on a aussi une façon de surprotéger les gens qu'on accompagne, en se disant, oh oui, mais il va pas y arriver, le pauvre, faut prendre soin de lui, etc. Et que finalement, on maintient les gens dans une espèce de situation compliquée, difficile, et on pense même pas que ça peut bien marcher, on est plutôt à voir le côté négatif en disant, il va pas y arriver, ça va être compliqué, plutôt que se dire, on essaye, et s'il y arrive, super, et s'il y arrive pas, on sera là encore pour accompagner, pour refaire, pour analyser ce qui n'a pas marché.
Ça demande de soi-même arrêter de projeter ses propres limites.
Tout à fait.
Sur ces personnes-là, dans lesquelles, du coup, on les limite vraiment.
C'est complètement ça. Puis ça demande d'accepter que les personnes ne pensent pas comme nous. Ça demande d'accepter que les gens ont envie de prendre des risques aussi, comme nous, on peut prendre dans notre vie. Après, effectivement, pour que les gens arrivent à nous dire « moi, je veux ça et je veux prendre ce risque-là », ça demande aussi tout un travail d'accompagnement au préalable, de prise de confiance, de réaffirmation de soi, d'estime de soi. Si on parle d'équité et d'égalité, dans notre fonctionnement même, nous on est sur de l'équité, pas de l'égalité. Aujourd'hui, notre fonctionnement implique, quand les gens rentrent en pension de famille, ils savent qu'ils doivent participer à la vie collective. Si on était sur de l'égalité, tout le monde devrait faire 2 heures de ménage, 2 heures de repas, etc. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des difficultés à marcher, des gens qui ont mal au bras, tout plein de difficultés. On est sur de l'équité. Effectivement, toi, tu ne peux pas rester debout et tu vas écouter les haricots verts pendant 1 heure, et tu fais ça pendant que les autres vont faire les toiles de réunion en hauteur. Et elle est là, l'équité, c'est qu'on arrête de voir les gens par leurs difficultés aussi, c'est qu'on les voit par leurs compétences et leurs capacités, et on met en avant ces capacités-là et ces compétences-là plutôt que de les enfermer sous un couvercle d'incapacité et de difficulté.
Alors, ensuite, j'ai plusieurs questions qui vont rebondir, si tu veux bien, sur des citations que j'ai extraites d'un des documents que tu m'as passé hier, qui est ton document.
Oui, alors c'est un article qui a été écrit dans le cadre d'une formation professionnelle d'ingénierie sociale. Donc c'est un devoir noté que j'ai dû réaliser en début d'année.
Donc comme je vais le citer plusieurs fois parce que je l'ai trouvé vraiment passionnant, j'aimerais bien d'ailleurs que tu le mettes en ligne et qu'il soit accessible à tous.
Je réfléchirai à sa publication.
Que je ne sois pas seule privilégiée à en avoir connaissance, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de citations qui sont à la fois des témoignages que tu cites d'habitants de la basoche, de pension de famille, et aussi des citations d'intellectuels et d'auteurs de livres qui ont longuement réfléchi. Et voilà,
c'est là, faut pas que je me plante et que je passe pas pour une usurpatrice.
Sur le sujet. Non, mais tu vas voir, ça va pas te demander. Alors, par exemple, la première chose, c'est juste un témoignage d'une personne qui s'appelle Annie. Elle parle de s'engager pour le groupe qui lui fait confiance dans le cadre de la structure, de la pension de famille. Elle dit « Ici, on t'encourage, ça fait du bien au moral, ça motive à aller mieux. Les autres voient plus ce que tu sais faire que tes difficultés. » Et ensuite, tu cites donc le sociologue Raymond Leré qui défend cette approche de l'intervention sociale qui consiste à cesser de maintenir les personnes dans leurs carences ou leurs manques. Donc ça, tu l'as déjà illustré dans ce que tu as dit avant. Et en fait, on sent que c'est il y a une réflexion en permanence par rapport à cet aspect-là.
Oui, tout à fait. Parce que dans ce qu'on vit au quotidien, voilà, on peut très vite se cantonner à ce qui ne marche pas. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, qui s'alcoolise fortement, qui fout le bazar dans la pension, qui génère des choses, assez facilement, j'ai envie de dire, on pourrait le cantonner à cette étiquette d'alcoolique qui met le bazar dans la vie de la pension. Pour autant, nous, on préfère voir toutes les autres choses que la personne sait faire et les mettre en avant.
Ça vous demande de changer, vous, votre regard aussi.
C'est ça, et puis ça nous demande aussi je reboucle avec le côté, il ne faut pas qu'on soit tout seul sur les pensions, il faut au moins un binôme, parce que pour pouvoir changer notre regard, il faut aussi qu'on puisse le confronter au regard d'un autre et on est vraiment dans cette dynamique là dans nos pensions où effectivement il y a sur chaque pension deux personnes qui peuvent échanger ce regard là. Moi je viens aussi très régulièrement sur les pensions pour confronter un troisième regard aux équipes sur des situations parce que les équipes les vivent aussi au quotidien, donc c'est très facile, enfin c'est très humain de se faire happer par des... Voilà, quand vous êtes appelé quatre fois dans la nuit et qu'il faut revenir bosser le matin et qu'on est fatigué, c'est très facile de tomber dans le « oui, il me fatigue et j'en peux plus ». Donc moi, j'apporte aussi ce regard extérieur qui ne vit pas ce quotidien-là. Oui. Et on a aussi des temps où on se rend compte, tous les professionnels des quatre pensions de famille, où on prend le temps aussi de réfléchir à quelles sont nos missions finalement, qu'est-ce que c'est qu'un hôte de pension de famille. Ce boulot-là, il est aussi énormément soutenu par la Fondation Abbé Pierre, qui organise ces réflexions avec tous les autres de pensions de famille du réseau national, donc qui représente une quarantaine de pensions, de réfléchir sur les fonctions, les rôles, les missions des autres de pension, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et finalement, on a vraiment réfléchi à quelles étaient nos missions, d'abord en se définissant à l'encontre de ce qu'on connaissait. Donc effectivement, nous sommes des hôtes, mais nous ne sommes pas des assistantes sociales de secteur classique, parce que nous, on ne prend pas de rendez-vous, on n'a pas un rendez-vous au bureau, parce que nous, on tutoie les habitants, parce qu'on les reçoit quand ils ont besoin d'être reçus, etc. Enfin voilà, il y a une espèce de d'efficience et de rapidité aussi dans la réponse.
Et de souplesse.
Et de souplesse. Et ça, la souplesse et l'adaptation, c'est un des points forts en pension de famille. On calque pas des modèles tout faits, en fait. Et sans arrêt, on réinvente des façons d'accompagner. Et ce travail en équipe est nécessaire pour ça, parce que très vite, on peut tomber sur une espèce de toute-puissance en étant peu. La Fondation aussi met en place des analyses de la pratique. Donc c'est-à-dire que les autres vont parler de leur pratique et s'interroger sur leur pratique, sur... Quand je me comporte comme ça auprès d'un habitant, qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça fait écho chez moi, et voilà, cette remise en question, moi, elle me paraît juste indispensable, parce que sinon, depuis 12 ans, on serait dans un truc qui ronronne où on copie et on apporte les mêmes réponses à tout le monde. Et nous, on a l'habitude de dire, on n'apporte pas des réponses individuelles aux habitants, on leur apporte des réponses personnelles. Et la bonne réponse pour l'un ne sera pas la bonne réponse pour l'autre. Et on accepte aussi de sortir un petit peu des sentiers classiques. Je prends un exemple un peu bête. Alors ça m'embête parce que c'est encore un exemple lié à l'alcool, mais c'est celui qui me vient spontanément en tête, d'un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui s'alcoolisait fortement, donc qui chutait de son fauteuil. Et il fallait donc le remonter dans le fauteuil 10, 15 fois par jour, ce qui était très compliqué pour les équipes, ce qui était très compliqué pour ses voisins, qui l'entendaient hurler au secours, enfin voilà, ça a généré beaucoup d'inquiétude, de fatigue, d'agacement aussi. On a travaillé avec les habitudes qu'on peut avoir d'orientation, etc. Ça n'a pas marché pour X raisons et peu importe. On a fini par négocier avec la personne que sa bouteille de rhum soit dans le bureau des autres et que quand il a envie de boire, il descende dans le bureau des autres pour qu'on lui serve son verre d'alcool. Ce qui est une chose complètement improbable et impensable. Enfin, je connais, quand je parle de ça dans les formations du travail social, les élèves me regardent avec des grands yeux et on a conscience que c'est pas la façon habituelle de faire. Et en tout cas, c'est la façon qui a permis à ce monsieur, dans un premier temps, de gérer sa consommation d'alcool et à terme de l'arrêter, ce qui n'était pas forcément le but recherché. Nous, le but recherché, c'était qu'il puisse consommer, être bien avec son consommation, tout en ne mettant pas les autres à mal, les autres et les autres à mal. Et voilà, on a trouvé que ces solutions-là. Et quand on parle de ça à d'autres professionnels, voilà, ils nous prennent complètement pour des fous. Pour autant, ça marche. Ce qui veut pas dire qu'on le fera pour tout le monde. Et après, il y a une vraie proximité entre les hôtes et les habitants. On parle beaucoup de la bonne distance en travail social. Nous, on préfère parler de la juste proximité parce qu'on a des vraies relations de proximité avec les habitants. On se tutoie, on passe minimum 7 heures avec eux par jour, quoi. Donc plus qu'avec nos amis, nos propres familles. Donc forcément, ils se créent une relation de proximité et qui est pour nous un vrai avantage dans la relation et dans l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une posture professionnelle. Et il y avait une collègue qui parlait, une collègue de la pension de famille de Couzex, ou de Wapi à côté de Metz, je ne sais plus, et qui disait ils ont une lecture affective de notre professionnalisme. Et je trouvais que ça résumait vraiment bien cet équilibre entre la proximité, le plaisir qu'on a de passer du temps avec eux aussi, parce qu'on a du plaisir à passer du temps avec eux, quoi. Et ce côté, on est professionnel et on reste quand même à notre place, quoi.
Tout à l'heure, pendant qu'on prenait le café là, et qu'on discutait avec quelques habitants, il y a un des voisins qui est venu récupérer un petit sac en papier là. Et j'ai lu aussi que de nombreux habitants des pensions de famille sont impliqués dans les comités de quartier. Donc il y a une interaction comme ça entre le voisinage et le... Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors c'est tout l'enjeu des pensions de famille. En fait,
de ne pas ghettoiser non plus.
C'est ça. L'idée, c'est... Alors j'ai pas cité la marque, mais j'ai coutume de dire on n'est pas sous une bulle de verre où on a tout à proximité, où on vit notre vie tranquillement sous notre petite bulle. Et c'est aussi dans la circulaire hein, de 2002, la pension de famille, il y a une mission d'ouverture vers l'extérieur. L'idée est aussi que les habitants prennent ou reprennent une place dans la cité, mais au sens large, pas juste citoyens parce qu'ils vont voter, quoi. Vraiment qu'ils reprennent la place dans la cité. On a toujours eu, nous, dans nos façons de travailler, d'être à la rencontre des gens du quartier et que les habitants soient vraiment des habitants du quartier avant même d'être des habitants de pension de famille. Je sais pas si tu as vu, sur aucune de nos pensions, il y a de plaque à l'extérieur qui dit Fondation Abbé Pierre, pension de famille, etc. On est sur du bâtiment complètement banalisé et c'est une vraie volonté de notre part qui fait qu'aujourd'hui, les habitants du quartier, alors ils savent qu'on n'est pas un bâtiment classique, parce qu'ils viennent, ils rencontrent, etc. Mais les habitants de la pension sont complètement intégrés dans le quartier. Et les fameux petits sacs en papier, donc c'est la basoche sert de lieu de dépôt de paniers bio des jardins de contrat, donc qui sont des jardins d'insertion qui produisent des légumes. Et une fois par semaine, les habitants du quartier, du coup, viennent à la pension de famille. Et les habitants de la pension de famille donc leur remettent leur panier. Et tout ça, c'est encore un prétexte à la rencontre. Voilà, ben vous avez le temps de rester un petit peu, on prend un café, on papote. Et finalement, il se crée des liens de voisinage classiques comme n'importe qui. Et effectivement, les habitants qui le souhaitent, encore une fois, vont participer au comité de quartier. Le monsieur qui est venu tout à l'heure parlait d'une zone de gratuité qui est organisée dans le quartier une à deux fois par an, où chacun vient, dépose ce qu'il a envie de déposer. Et les gens viennent, prennent, échangent s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Les habitants, certains en tout cas de la pension, s'impliquent dans cette organisation-là. D'autres vont au cinéma à côté régulièrement et ont toutes leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes avec les commorsions, mais vraiment comme n'importe quelle pension, quoi. Et on a des voisins qui viennent des fois juste pour boire un café et passer un moment. Parce que les voisins sont aussi sortis de leur représentation. Et sur la basoche, ça a été compliqué quand on s'est implanté. Hein. Les voisins se demandaient ce qu'on allait leur mettre là dans ce quartier, qui est un des quartiers les plus riches, pour ne pas dire le plus riche de Tours. Donc il y a eu plein d'inquiétudes sur « mais vous nous ramenez des... » J'ai entendu dire que c'était des sortants de prison, que c'était des drogués, que c'était ceci, que c'était cela. Donc voilà, tout le fantasme qu'on peut avoir sur la personne un peu
donc
différent.
Donc il faut déconstruire les clichés.
Voilà, et aujourd'hui, je me dis qu'on a gagné, parce que passer cette inquiétude-là, les habitants du quartier se sont aussi rendus compte que, ouais, ok, bah, ils ont peut-être eu un parcours de rue, ouais, ok, il y a peut-être des difficultés psy, ouais, ok, il y a peut-être une petite problématique alcool ou une grosse problématique alcool. Pour autant, ils ne sont pas que ça. Et ben on aime bien venir à la Basoche pour jouer au tarot. On aime bien venir à la Basoche manger un gâteau parce qu'ils font super bien le gâteau. On aime bien venir parce que les gens sont super gentils, qu'on est super bien accueillis. Oui. Et du coup, le regard des voisins, lui aussi, a changé. Et finalement, c'est la société qui change par ce biais-là. Et ceci dit, le regard, il change aussi dans l'autre sens. Les habitants aussi le regard sur les bobos de gauche, les gens riches, tout ça.
Les bourges.
Voilà, les bourgeois, ils en ont rien à faire de nous. Ça les intéresse pas, machin. Et finalement, ils se rendent compte que ce sont aussi des gens comme tout le monde et qui peuvent avoir des centres d'intérêt qui sont les mêmes que les leurs. Quoi.
Donc déconstruction des clichés dans les deux sens. Très bien. Tu dis aussi le terme accompagné tire son origine du latin. Cum et panis.
Ouais.
Partager le pain. Les repas pris en commun dans les pensions de famille Solia CVL, Centre-Val de Loire, renvoient donc bien aux origines de l'accompagnement. Le pain est finalement à prendre au sens de nourriture, autant matérielle que spirituelle et affective. Son partage, et ça que je trouve intéressant de noter, son partage initie un cercle vertueux à la fois alimentaire et social, les hôtes effectuent auprès des habitants un accompagnement de proximité basé sur l'écoute, la bienveillance, tu nous en as déjà parlé, et qui s'appuie sur les théories du CARE de Carol Gilligan. Et tu cites « Cette attitude faite de sollicitude et d'attention à autrui qui permet de percevoir les responsabilités qu'on a à son égard et d'y répondre de manière appropriée en tenant compte de la singularité de la situation. » Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on entend beaucoup parler du CARE depuis quelques années dans différents domaines.
Notamment féministes.
Voilà, il y a beaucoup de personnalités qui en ont parlé. Mais quelquefois, on oublie un peu toutes les nuances et subtilités qui sont quand même dans ce concept. Enfin, en tout cas, pour que ça fonctionne et que ça ne soit pas juste de la bonne intention. Répondre de manière appropriée en tenant compte de la singularité de la situation. Ça, en fait, c'est un travail que vous faites vraiment chaque jour, à chaque heure, avec chaque personne.
Oui, complètement. C'est ce que je parlais, c'est ce que je mettais derrière adaptation tout à l'heure. Alors moi, je parle des théories du CARE et pas du CARE,
oui,
parce qu'il y a vraiment un éventail très très large quand on parle de CARE, qui va effectivement de la lutte féministe jusqu'à la politique.
Le soin en milieu médical.
Le prendre soin, vraiment dans plein de domaines. Et ces théories qui ressortent beaucoup suite au confinement Covid qu'on a vécu. Et du coup, moi j'ai envie de dire, on remet de l'humanité dans des pratiques pro qui sont des pratiques techniques en fait. Nous sommes des techniciens et malheureusement de plus en plus, les travailleurs sociaux deviennent des techniciens du travail social. Ce qui veut dire qu'il y a une situation, on répond avec notre caisse à outils et basta. Ce qu'on essaye de faire nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de réponse plaquée. Et ce qui va marcher pour l'un ne va peut-être pas marcher pour l'autre. Et qu'effectivement, on est sur une adaptation permanente qui prend en compte la personne à un instant T, un endroit T, et dans une situation particulière. Quelqu'un qui va, ce qu'on dit communément, péter un plomb, parce que ça arrive dans un contexte de perte d'un proche, de moments difficiles à vivre dans sa vie, etc. On va adapter notre réponse à cette situation particulière par rapport à un qui pète un plomb, parce qu'il a envie de péter un plomb. C'est comment en fait on connaît suffisamment bien aussi les habitants pour vivre avec eux au quotidien, pour pouvoir lire cette particularité aussi du moment et cette particularité de leur réponse, et pour pouvoir adapter la réponse. Et en même temps, la réponse, on la co-construit avec eux aussi.
La co-construction, c'est un mot qui revient souvent.
Complètement. Puis je prends juste un exemple. On a un habitant, et c'est drôle, c'était il y a 2-3 jours, un habitant sur une autre pension qui était très mal, donc qui s'est alcoolisé, qui a été plus ou moins violent avec un autre habitant. Et donc, on a repris avec lui dès le lendemain. Et dès le lendemain, il dit, il faut me sanctionner. Effectivement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Donc, je veux une sanction. Quelle sanction te paraît adaptée, machin. Alors, ils sont bien souvent plus dur que nous dans la réponse à apporter. Mais je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir les questionner ça aussi. Là, effectivement, t'as dépassé les limites pour qu'on vive bien tous ensemble. Pour autant, tu vas pas avoir un tampon à vie. Je suis le gars qui a pété un plomb. Et encore une fois, on n'est pas sur du règlement qui a été écrit par je ne sais qui, je ne sais quand, et qu'on applique bêtement. D'ailleurs, le règlement, à la basoche, on en est à la cinquième version depuis l'ouverture. Parce que ce règlement, on l'a construit quand on a ouvert. Il n'y avait pas encore d'habitants. Donc, Et puis, on ne connaissait pas trop ce que c'était que les pensions. Hein, donc, on a fait un peu avec ce qu'on imaginait être, etc.
Poser un premier cadre.
Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous paraissait important d'avoir un règlement. Et puis, aujourd'hui, on le fait évoluer.
Avec
les habitants. Parce que, pareil, un exemple très bête. Là, avec la Fondation Abbé Pierre, on a lancé une grande phase d'évaluation interne des pensions de famille avec des critères d'évaluation qui ont été co-construits, encore une fois, à la fois avec les professionnels, à la fois avec les habitants, à la fois avec les directions, avec les administrateurs, avec la fondation. Et donc voilà, ça nous a permis aussi de re-questionner nos projets sociaux et nos règlements de fonctionnement. Et les habitants nous disaient, ouais, dans le règlement, c'est écrit les choses strictement interdites, l'introduction d'armes, la violence, machin, etc. Et je dis, oui, ok, qu'est-ce qui interroge ? Ben, en fait, de l'écrire, ça sous-entend que c'est déjà arrivé. En fait, ça nous fait peur qu'on arrive. Ah ouais, j'avais jamais pensé ça. Et en fait, à la réflexion, en discutant avec eux, on se dit, finalement, c'est interdit par la loi. Donc, pourquoi on a besoin de le réécrire dans notre règlement ? Bon, voilà, c'est des choses qui vont partir, quoi. Enfin, et c'est vachement intéressant, finalement, de remettre en place le fonctionnement avec eux. Je reparle encore d'alcool. On va croire que c'est ma lubie, mais... Depuis le début, on a fait le choix de protéger les espaces communs de l'alcool. Donc l'alcool, autant dans les logements, les gens font ce qu'ils veulent. Dans les espaces communs, on a fait le choix qu'il n'y ait pas d'alcool. Parce qu'on avait des gens, quand on a ouvert, qui avaient des problématiques avec l'alcool et qui avaient besoin d'espaces où l'alcool n'avait pas lieu d'être, en fait. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est en train de réfléchir autrement sur... On est allé à des festivals avec les habitants, on a bu l'apéro avec des habitants à l'extérieur de la pension, et que finalement ça pose pas de problème, et que ça devient un autre support qui permet aussi de parler de la consommation d'alcool avec eux, etc. Et aujourd'hui on est en train de discuter sur est-ce que finalement il y a de l'alcool ou pas d'alcool dans les pensions. Et il y a une pension qui nous a dit non, nous on n'en veut pas parce que ça va être compliqué à gérer. Une autre qui dit oui, pourquoi pas. Dans les prochaines qu'on va ouvrir, c'est des questions qu'on va aborder. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. On construit la réponse avec les gens qui vivent dans la pension. Et puis cette réponse qui est valable en 2020, elle sera peut-être plus valable en 2021, peut-être plus valable en 2022. Mais ça demande aussi, une remise en cause institutionnelle, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est un des gros problèmes en France aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a le poids des institutions. C'est comment les institutions elles-mêmes se remettent en cause. Nous, on a su dire, notre règlement, il y a 12 ans... il n'est plus du tout adapté, il est nul, réécrivons-le. Toutes les institutions ne sont pas en capacité de le faire non plus. Quoi.
Oui, et le réécrire en tenant compte ou en prenant en considération vraiment l'avis des personnes concernées, pas en appliquant de l'extérieur, ça se voit aussi beaucoup en France en entreprise ou lors des restructurations, je l'ai vécu plusieurs fois, on voit des personnes qui débarquent pour faire des restructurations qui ne mettent pas du tout les pieds sur le terrain, c'est-à-dire dans les services, dans les couloirs, dans les bureaux, pour aller voir comment les gens vivent et qui impose du haut des choses qui sont ensuite très très mal vécues.
Une recette toute faite, quoi. Et nous, on part plutôt du principe de dire, si on comprend le règlement, on va le respecter. Et pour le comprendre, autant l'écrire. Et là, depuis l'année dernière, on est en train de réécrire aussi tous nos documents un peu officiels en méthode facile à lire et à comprendre. Et notamment par le biais de cette méthode, on a écrit tout un... C'est assez drôle, donc je parlais du PDLHPD tout à l'heure, donc du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Et avec les gens qui participent à ce groupe, donc des habitants de pension, mais aussi d'autres structures du social, on a réécrit une plaquette de qu'est-ce que c'est que ce plan, à quoi il sert, comment ça fonctionne. Et on l'a écrit en méthode facile à lire et à comprendre, qui est une méthode à la fois avec des polices de caractère particulières, une formulation des mots, etc. Donc on a sorti, cette plaquette a été imprimée par le conseil départemental. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que ce document qui est à destination plutôt des personnes concernées, accompagnées, enfin peu importe comment on les appelle, finalement c'est les travailleurs sociaux qui se saisissent de ce document-là en disant ouais, mais en fait on n'avait pas complètement compris à quoi ça servait. Et c'est génial parce que du coup on réécrit des choses avec les personnes qui sont normalement destinataires de ça, et finalement ça sert aux gens qui sont censés le maîtriser, quoi.
Donc, oui.
Voilà. Et dans le même sens là, avec ce groupe-là, l'idée c'est d'aller réécrire par exemple tous les courriers de prévention, de lutte des expulsions, qui aujourd'hui sont des courriers très normés, très formatés, qui font super peur parce qu'on met plein de textes de loi, etc. Et que bien souvent, les gens ne se saisissent pas de l'aide qui est proposée dans ce courrier, parce que le courrier fait tellement peur qu'on entend juste « je vais être mis à la porte », on le réécrit avec les habitants. Et à terme, l'idée, c'est que quand on reçoit ce courrier-là, on le comprend tout de suite. Et du coup, on va appeler les services pour pouvoir, parce qu'on va comprendre que c'est de l'aide qui est apportée.
Et pas juste de la menace. Et...
C'est ça.
D'accord. Tu dis dans ce document aussi, le travail des hôtes des pensions de famille de Solia CVL s'inspire fortement de l'éducation populaire qui développe des méthodes d'apprentissage fondées sur l'échange et l'autonomie et repose sur une implication militante.
Ouais.
Alors, quelle est la part de tout ça dans, ici ?
Alors, ça va être compliqué de mettre des parts. Finalement, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose d'innovant et d'ultra fabuleux, etc. On remet au goût du jour des façons de faire qui existent depuis 60 ans. Enfin, Paulo Freire, qui est le père de l'éducation populaire. Je ne sais plus en quelle année il a écrit son premier livre, mais on parle de choses qui ont eu lieu il y a 50, il y a 60 ans, et qui ont été un petit peu oubliées. Et effectivement, l'éducation populaire, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est on prend les capacités des gens plutôt que de voir les difficultés. Et on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie, en tout cas de la participation de tous. Et oui, il y a un côté militant parce qu'il faut faire entendre aussi cette façon de faire. Et aujourd'hui, bah oui, on a le sentiment de militer, d'essayer d'ouvrir nos partenaires, mais aussi nos collègues au sein de l'association, à cette façon différente de faire, et pas cette nouvelle. Hein, je ne veux pas dire cette nouvelle parce que réellement, il y a en tout cas une autre façon de faire qui mette vraiment en avant les potentiels des personnes. Et oui, c'est du travail militant d'aller faire comprendre ça quoi, et d'amener les gens à faire ça. Et après, ça fait écho aussi avec l'origine de l'association. Après, militant, ça ne veut pas dire prendre une pancarte, aller occuper un foyer d'urgence qui va fermer. Ça ne veut pas dire aller faire des actions coup de poing. Ça veut dire aussi être convaincu par une façon de faire, par des choses, et d'aller les porter. Et le militantisme, on le porte notamment dans les formations de futurs travailleurs sociaux où on intervient. Et quand on intervient d'ailleurs systématiquement avec des habitants. Parce que eux aussi, ils peuvent parler de ce que c'est qu'une pension de famille. Eux aussi, ils sont à même de parler de... qu'est-ce qu'on attend d'un travailleur social quand il vient nous accompagner ? Donc si ce n'est pas les personnes concernées qui viennent en parler, je ne sais pas qui vient en parler. Et bien ça, c'est quelque chose de militant, de dire « Ok, moi je veux bien intervenir dans votre formation, par contre, je viens avec un habitant. » Et puis du coup, il va être défrayé aussi, cet habitant-là, parce que moi j'ai sur mon temps de travail, je suis payé pour le faire, lui vient sur son temps personnel. Faut aussi qu'on prenne en considération cette disponibilité qu'il vous propose et qu'il vous offre. Quoi. Et rien que ça, c'est un côté militant. Après, le côté militant, c'est aussi de ne pas être d'accord forcément avec toutes les politiques et les fonctionnements et d'être en capacité de le dire. Et encore une fois, c'est pas juste dire non pour le plaisir de dire non, c'est dire non en argumentant. Il y avait quelques années le logiciel informatique qui gère le fameux SIAO. Ce logiciel-là...
Qu'est-ce que c'est SIAO ?
Donc le service intégré d'accueil et d'orientation, donc qui centralise les demandes de logements accompagnés, d'urgence et sur chaque département. Il y avait un logiciel informatique et ce logiciel-là ne garantissait pas le droit à l'oubli, puisqu'on n'avait aucune donnée sur combien de temps étaient conservées les informations. Il n'y avait pas de garantie de sécurité en termes d'accès. Voilà, on avait l'obligation normalement de compléter... ce document, on a refusé de le faire parce qu'il ne garantissait pas des valeurs éthiques qu'on défendait. Bon, aujourd'hui, le logiciel a changé. Toutes les garanties qu'on défendait, qu'on demandait sont garanties. Bon, OK, aujourd'hui, on le fait. Mais voilà, ça aussi, c'est du militantisme de dire OK, on refuse de faire ce que nous demande l'État malgré le fait que l'État nous finance. Quoi.
Oui.
Mais c'est possible, la preuve, puisqu'on n'a pas fermé pour autant et que c'est fait en bonne intelligence et avec une finalité qui est une finalité liée à l'intégrité des personnes, en fait.
Et ce qui m'avait frappé la première fois que je suis venue ici, en fait, et qu'on le sent transparaître au travers de tout ce que tu dis, c'est, et là encore, c'est une expression qui peut paraître un peu galvaudée, mais qui finalement, lorsqu'elle est vraiment, lorsqu'il y a une vraie considération de ça, ça apporte vraiment des résultats, c'est que vous faites un gros travail sur l'estime de soi. Et avec là aussi beaucoup de créativité en fait. Et là j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de la partie créative. Je pense notamment aux photographies, je crois que c'est l'année dernière. Hein.
Alors l'exemple que tu donnes là des portraits, etc. Donc oui. Ça c'est un projet qui a été porté avec Christophe Loiseau qui est un photographe, mais qui s'est déroulé à la pension de famille de Nîmes, donc qui est une pension de famille du réseau Fondation Abbé Pierre. Et cette année, nous, on travaille donc avec le même photographe sur un tableau de Bruegel, qui est un grand tableau qui représente une foire paysanne, enfin une foire foraine. Et Christophe a découpé ce tableau en 120 scénettes. Et les scénettes vont être rejouées par les habitants sur un fond vert, de manière à ce que Christophe puisse les intégrer après au tableau initial. Voilà, je ne sais pas techniquement comment ça marche, mais voilà. Et du coup, ce tableau animé, si on peut le dire comme ça, va être projeté à Avignon au mois de septembre pendant 4 jours. Alors, avec un système technique que je ne maîtrise pas non plus, mais qui le rendra visible et de jour et de nuit, donc sur une grande place d'Avignon. Ça, ce sera une œuvre collective qui est présentée dans le cadre du festival C'est pas du luxe, qui est un festival qui a été initié par la Fondation Abbé Pierre, avec le soutien de l'association Le Village de Cavaillon et la scène nationale de la Garance.
Donc et dans le sud de la France,
pour nos
amis à l'étranger.
C'est ça. Et l'idée, donc, c'est de mettre en valeur les pratiques artistiques qui se faisaient individuellement dans les pensions de famille ou dans les boutiques solidarité du réseau de la Fondation Abbé Pierre. Et c'était dommage que ça se passe de manière sporadique un peu partout. Et la Fondation s'est dit, mais il faut qu'on crée un événement où on met en lumière toutes ces choses-là. Donc là, on est sur la 5e édition cette année. Donc on va être accueillis en septembre, fin septembre, à Avignon. La ville d'Avignon, d'ailleurs, compte sur ce festival pour relancer la saison culturelle d'Avignon. Donc ce qui est pas rien, qui est franchement très valorisant. Et il y a une phrase, donc voilà, pendant 3-4 jours, on investit une ville, donc Avignon depuis 2 ans. Auparavant, on était dans d'autres villes du Sud, et on investit donc une ville avec des lieux, donc des théâtres, des scènes ouvertes, des salles d'exposition, etc. Et les personnes présentent leurs pratiques, alors c'est soit de la danse...
Donc ce sont que des personnes des pensions de famille.
Des pensions de famille et des boutiques solidarité.
D'accord.
Donc on est sur des pratiques de la danse, de la peinture, de la photo, de la musique, du concert, du dessin, de la sculpture, enfin... Tout ce qui peut du cinéma, tout ce qui peut être de la pratique artistique et culturelle. Et les gens donc, viennent, déambulent de lieu en lieu au gré de la programmation et des spectacles qu'ils veulent voir. Et je retiens une phrase...
Les habitants proposent des choses qu'ils ont préparées.
C'est
avant
ça.
Le festival, hein, comme on
c'est
prépare
ça.
Un,
bah, ils ont travaillé pendant un an, deux
comme
ans,
des,
voilà,
comme des professionnels.
Comme des artistes qui travaillent pendant un an sur un spectacle, pendant 2 ans, et ils viennent le présenter. Et quand je parle des habitants qui viennent déambuler, donc c'est les habitants de la ville, donc les festivaliers, qui viennent voir les habitants de pension ou les accueillis de boutiques solidarité proposer leurs performances artistiques, sachant qu'ils sont accompagnés par des artistes professionnels, hein, dont c'est le travail. Et j'ai en tête une phrase d'un accueilli de la boutique solidarité de Marseille, si je dis pas de bêtises, mais peu importe, qui disait « Dans la rue, les gens ne me voient pas et là, ils payent pour venir me regarder. » Et voilà, je trouvais que cette phrase, elle résumait vraiment ce qui se passait dans ce festival. Et ça contribue effectivement à la prise de confiance des personnes. Mais après, à une échelle beaucoup plus réduite, hein, juste de venir et de dire bonjour, d'être attentif à une nouvelle coupe de cheveux, à un air fatigué, etc. Rien que ça, déjà, c'est ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et rien que ça, ça contribue à quelqu'un attentif à moi, quelqu'un fait attention à moi. Et ben, rien que ça, ça redonne aussi de l'estime. Et puis après, ben, y a plein d'autres choses au quotidien.
C'est à toi une place à table ?
C'est à toi une place à table.
Qu'est-ce que c'est alors une place à table ?
Une place à table, donc c'est un festival qui a été mis en place en 2016 avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre. À l'initiative des pensions de famille du réseau Grand Ouest de la Fondation Abbé Pierre, qu'on a piloté avec les pensions de Solia Centre-Val de Loire. Et ce festival, il est parti du constat qu'on commençait à reparler de la faim en France. Que dans les boutiques solidarité, les gens revenaient avant tout pour manger, avant de créer du lien social, par exemple, ou de rencontrer un travailleur social. Et qu'en parallèle, paradoxalement, on jetait des tonnes et des tonnes de nourriture parce qu'il y avait une surproduction, parce que ce n'était pas utilisé. Et les habitants se sont vachement interrogés là-dessus. Et on s'est dit, bon, il faut mettre en place quelque chose qui dénonce ça. D'autant plus que la pratique de partage de repas et de préparation de repas, c'est un peu le cœur des pensions. Et donc, on a réfléchi avec d'autres associations, avec la Banque Alimentaire, qui nous a aussi pas mal soutenus, a créé un festival. Donc la première année, le festival s'est tenu à Préfailles, en Loire-Atlantique, donc sur la côte atlantique. Donc on est plutôt là sur des gens qui ont des résidences secondaires et qui ont plutôt un peu de moyens. Et donc pareil, on a investi la ville. Alors on a travaillé pendant 1 an et demi avec 2 artistes culinaire, un peu fou, mais il nous fallait bien ça. Et on a investi la ville de Préfailles avec des activités de glanage, soit à la mer, soit dans des maraîchers, etc. Et on a installé un grand marché gourmand sur la place de la ville, avec des stands tenus par les habitants de pension et des accueillis de boutiques solidarité, qui venaient proposer soit des prestations culinaires, etc. On a eu Stéphanie Lequelec qui est une chef étoilée qui avait gagné une émission télé sur la cuisine, donc qui était notre marraine, qui est venue préparer un repas un peu gastro, si on peut dire comme ça, avec un panier de base de banque alimentaire. Et le festival s'est clôturé par une prestation artistique, pour le coup, avec une grande ligne de feu sur la plage, avec des modes de cuisson un peu fous, un frigo pour fumer des œufs, une vieille baignoire en fonte pour cuire de la poule au pot, un vieux sommier de lit pour griller des légumes, une armoire en bois une vieille armoire en bois, donc personne ne voulait depuis des années, qu'on a fait flamber avec 400 kg de patates et de sel à l'intérieur. Et tout ça pour préparer un banquet, donc une table de 400 personnes, où est invité à manger donc les habitants de Préfaille. Et là, on a inversé aussi les rôles, c'était les sans droit, les sans toit.
400 personnes, c'était où alors ?
À Préfaille, sur une grande ligne, sur la place, dans toute une allée de la ville. Mmh. Et l'idée, donc, on était sur les sans droit, sans toit, sans papier, sans argent, enfin voilà, qui invitent à leur table les gens plutôt nantis de la population. Et ça a été lieu aussi à plein d'échanges, à plein de... Voilà. Et on a reproduit donc une édition régionale à Tours il y a 2 ans. Là, cette édition-là, on était plutôt dans une logique d'interpellation un peu plus politique, avec des visites débats qui ont été organisées, et un grand débat qui a clôturé donc les 2-3 jours, qui a été diffusé sur une radio locale de Tours. L'idée étant d'interpeller, de proposer des solutions et de prendre des engagements, du coup, pour changer les choses au quotidien dans nos structures et puis à terme interpeller. Et il y a des choses qui ont changé. Hein, et du coup, il y a eu aussi une grosse interrogation sur la violence du don. Quand on reçoit, quand on est celui qui reçoit, c'est aussi super violent. Et donc voilà, tout ce que ça peut renvoyer, encore une fois, de ne pas choisir. Et c'est des choses qui ont été modifiées. On bosse beaucoup avec la Banque alimentaire, qui est fort partenaire des pensions de famille. Aujourd'hui, les habitants s'autorisent à dire à la Banque alimentaire, on ne veut pas de tomates au mois de décembre. Parce qu'on sait que ces tomates-là, elles sont pas de saison, elles sont cultivées je ne sais où sous des serres. Déjà d'une, elles sont pas bonnes. Deux, elles ont un bilan carbone catastrophique. Donc on ne veut pas. Et la Banque alimentaire entend et fait remonter aussi. Donc on espère qu'à terme, il n'y ait plus de tomates qui soient cultivées ou qui soient exportées de je ne sais où. Et puis vraiment, on y a intégré quelque chose de philosophique, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment de réflexion, quoi. Quand on va à une banque alimentaire, on ne choisit pas ce qu'on prend. Alors, certaines banques alimentaires fonctionnent différemment, mais en gros, on arrive, on prend le colis, on n'a pas le choix. Alors, en Touraine, on a beaucoup de champignons parce qu'on a une champignonnière qui donne beaucoup à la banque alimentaire. Bah, quand on a des champignons toutes les semaines, on en a marre. Et en même temps, mais si on ne les prend pas, on n'aura rien. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Et voilà, ça va vraiment questionner sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue quand on donne et quand on reçoit. Et au-delà de ça, les habitants ont questionné le côté pourquoi c'est à nous de prendre en charge la lutte contre le gaspillage. Puisqu'on arrive en bout de chaîne parce que les magasins produisent trop, donc vont gaspiller. Donc donne aux banques alimentaires pour ne pas gaspiller. Mmh. Les banques alimentaires nous redonnent. Et finalement, c'est nous qui devons assumer à 20, 22, 25 personnes dans les pensions de ne pas gâcher les 300 yaourts qu'on a reçus et qui doivent être finis dans 2 jours. Quoi. Et donc, c'est à eux d'inventer des réseaux, c'est à eux de cuisiner, etc. Et il y avait ce questionnement-là aussi. Enfin, c'est pas juste, finalement, parce qu'on est en précarité, c'est à nous d'assumer de ne pas gaspiller là où toutes les strates au-dessus... Alors, je ne vais pas dire qu'on ne se pose pas la question, parce que sûrement qu'elle se la pose, mais du coup, leur réponse, c'est de nous le rebasculer. Quoi, et voilà.
Qu'est-ce que tu souhaites pour les années qui viennent par rapport à tous les sujets dont on vient de parler ? Est-ce qu'il y a des axes qui sont prioritaires pour toi, que tu souhaiterais, enfin pour toi et ceux qui travaillent avec toi, que vous souhaitez voir évoluer, des choses qui seraient juste en cours en ce moment et qui...
Alors, je vais faire une réponse à la Miss France. Hein. Je souhaite que tout le monde aille bien, tout ça. Enfin, non.
Oui,
tous. Idéalement. Non, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à maintenir cette dynamique et ces remises en question, en tout cas, permanentes. Et je me dis que tant qu'on re-questionnera notre façon de faire, tant qu'on sera capable de s'interroger et entre professionnels et avec les habitants, on arrivera à maintenir cette dynamique-là. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse maintenir ça. Je le souhaite d'autant plus que là, on a 4 projets de pension de famille qui sont en cours. Donc en 2022, on va passer de 4 à 8, puis 10 pensions de famille. Et d'ailleurs, on y travaille déjà sur comment on maintient cette réactivité, cette convivialité, enfin tout ce qui fait aussi notre identité de pension et qu'on ne tombe pas dans un truc de grosse institution. Donc je me dis en même temps, si on se le questionne 2 ans après, c'est aussi ce qui va nous protéger par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite encore ? Qu'on arrive à véhiculer aussi ces façons de faire et qu'encore une fois, on sorte d'un... d'un travail social, hygiéniste, moralisateur, qui sait mieux que les autres ce qu'il faut, à quelque chose vraiment d'émancipateur et que les gens puissent être acteurs de leur vie avec la béquille qu'on peut leur apporter. Et puis à terme, voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous finalement.
C'est
ça. Et qu'ils arrivent à faire vivre, que les habitants arrivent à faire vivre la pension. Entre eux et que nous on vienne boire un café de temps en temps et passer des bons moments avec eux. Mais ça se fait, enfin, de plus en plus.
Oui. La ville de Tours, là, vient de. Donc, on est mi-juillet, donc on est après une période très difficile qui a été le confinement. On n'est encore pas sorti de toute cette époque Covid, là, on n'en a pas parlé. Et on est après des élections qui ont été historiques à Tours, puisqu'on est passé.
Écolo.
Voilà, avec une coalition de gauche et avec un maire écologiste, ce qui est assez révolutionnaire. Hein. Il y en a eu plusieurs en France. Je crois qu'hier ou avant-hier, plusieurs maires des villes qui sont devenus écologistes. Enfin, il y avait aussi Anne Hidalgo, donc de personnes impliquées, qui elle est impliquée au niveau international en tant que maire de capitale qui prennent des décisions fortes par rapport à l'environnement et à l'écologie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter déjà? Est-ce qu'il y a des projets possibles ou des... Est-ce que ça va, par rapport à vous, vos activités, ouvrir des nouvelles idées, des nouvelles...
Peut-être, sûrement. Après, oui, on a discuté avec les habitants de ce nouveau maire.
On a discuté avec... Ah oui.
Avec les habitants, on a discuté donc d'Emmanuel Denis, qui est le nouveau maire, parce que ça fait partie des sujets de discussion qu'on a. C'est des... Mais en tout cas, voilà, il y a une culture, en tout cas, au sein de notre pension, on parle de politique, on parle de plein de choses. Enfin, voilà, on ne fait pas de prosélytisme, on n'impose rien comme façon de penser. Mais en tout cas, tous les sujets sont parlés, sont débattus. Donc oui, on a parlé de ce nouveau maire, on a parlé de l'écologie, etc. Après, là, à cet instant, de dire on a tel ou tel projet, pas encore, parce qu'on sort aussi du confinement,
oui,
qui a été un moment un peu compliqué. Que là, on renclenche la semaine du 10 au 14 août, on organise une semaine de rencontres régionales de sport solidaire qu'on organise avec les habitants donc, dans la ville du Blanc, dans l'Indre, en bord de Creuse. Donc, qui va être un peu l'événement de sortie de Covid. On va tous se retrouver. Alors, on fera attention aux gestes protecteurs, aux distances physiques, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça va être un moment où on va tous se retrouver et qu'on est en pleine préparation d'Avignon là, pour le mois de septembre. Et puis qu'on laisse le temps à Emmanuel Denis de s'installer aussi tranquillement à la mairie, de voir ce qu'il va nous proposer. Mais très certainement qu'il y aura des choses qu'on va mettre en place. Après, on n'a pas attendu un maire écolo non plus pour avoir des composteurs dans chacune des pensions, pour avoir des récupérateurs d'eau, pour faire nos potagers, pour faire des mobiliers de jardin en palette. Voilà, on a déjà une pratique qui fait attention. Mais à voir. Enfin, voilà, on n'est pas contre, en tout cas, avoir ces projets-là. Et je ne m'inquiète pas sur l'esprit d'initiative, les bonnes idées des équipes et des habitants pour me dire qu'on saura saisir les opportunités si elles se présentent. Quoi.
Ok. Delphine Picard, un grand merci.
Merci, Anne.
Pour toutes ces explications. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation avec ces magnifiques lieux. Voilà, on était à la Bazoche à Tours. Et puis peut-être une prochaine pour des nouvelles aventures.
Avec plaisir, merci.
Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app,
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.